Alors, j'ai maintenant le plaisir d'inviter Denis Gutenben à venir me rejoindre. Cher Denis, vous êtes directeur délégué du Comité pour l'Histoire au CNRS. Vous êtes docteur en histoire et aussi rédacteur en chef de la revue Histoire de la recherche contemporaine. C'est un honneur de vous recevoir. Votre keynote apportera un éclairage historique sur l'évolution de la recherche partenariale. Vous partagerez avec nous vos connaissances sur les relations entre le CNRS et ses partenaires. C'est donc un grand plaisir que je vous donne la parole.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci à la NRT, aux organisatrices et organisateurs de ce colloque, en particulier à Violette, pour cette invitation à remettre en préambule dans une brève perspective historique et thématique, le questionnement qui nous réunit. Je dis bien bref parce que, évidemment, si on voulait retracer toute l'histoire de la recherche partenariale ou, disons même plus largement, des liens entre la recherche académique et le monde socio-économique, l'après-midi n'y suffirait pas. Vous m'avez donc proposé d'apporter des éléments de réflexion autour du parcours du CNRS et de voir quels sont un peu ses jalons dans ce domaine. Alors, le CNRS, on peut quand même dire, un peu comme en biologie, que c'est quand même un assez bon organisme modèle pour scruter ces liens, essayer d'en tirer quelques observations qui valent plus largement peut-être pour la recherche publique, avec ses forces, évidemment, en termes de recherche partenariale, ses faiblesses, évidemment aussi, sans oublier, on va dire aussi, les présupposés qui pèsent sur elle, parfois de longue date, et dont celui de la tour d'ivoire, où l'on mènerait des travaux à l'écart de la société, de ses enjeux, de ses besoins, n'est pas le moindre de ces présupposés. Parce que si on fait de l'histoire des représentations avant même de faire de l'histoire des institutions, on s'aperçoit que cet a priori, il est quand même sacrément bien ancré, qu'il est énoncé par un certain nombre de politiques assez régulièrement, qu'il est souvent souligné dans les médias, parmi les innombrables choses qui ne tourneraient pas rond dans notre pays et dont la liste est dressée chaque jour avec gourmandise dans la presse, à la radio, à la télé, sur les réseaux dits sociaux, l'incapacité séculaire, congénitale, substantielle de notre recherche publique à s'inscrire dans des partenariats fructueux, constructif, figure quasiment en aussi bonne place que, je sais pas, les trains qui n'arrivent pas à l'heure ou les fonctionnaires toujours en grève. Or, comme il y a évidemment des trains ponctuels et même des fonctionnaires zélés, il y a aussi, dès qu'on veut bien se donner la peine de dépasser ces présupposés, d'explorer les archives, de nombreux exemples finalement éclairants de partenariats, et le CNRS notamment n'en est pas avare. L'ambition, elle est d'ailleurs présente dès la genèse du CNRS, lorsque le physicien Jean Perrin crée en 1927 à Paris, avec le soutien d'une fondation, à l'époque déjà celle d'Edmond de Rothschild, un laboratoire de pointe qui fait office de matrice pour le CNRS à l'époque, c'est l'Institut de biologie physico-chimique. Alors, outre le fait que cet institut, comme son nom le révèle, devait encourager le rapprochement des disciplines, l'interdisciplinarité, donc une dimension qui ne date pas d'hier, Perrin et Rothschild ont affirmé une autre volonté, loin de cette vision d'une recherche un peu éthérée qu'on leur prête parfois. Je les cite, « Les travaux de cet institut peuvent apporter une contribution puissante au progrès économique de notre pays. » Et lorsque les fondements du CNRS commencent à être mis en place un petit peu plus tard, sous le Front populaire, toujours avec Jean Perrin, devenu entre-temps sous-secrétaire d'État à la recherche scientifique, et avec le soutien de son ministre de tutelle, grand ministre de tutelle à l'éducation nationale, Jean Zay, cette ambition, elle prend une envergure nationale. Plusieurs des centres de recherche qui voient le jour sous le Front populaire et formeront les premiers laboratoires du CNRS à sa création, en octobre 1939, sont tournés vers l'industrie, et un service des brevets est immédiatement inauguré auprès de la direction du CNRS, donc en octobre 1939. Parmi ces labos originels, il y a par exemple ceux de Meudon-Bellevue. Pas si vous connaissez ce site, ou autour du grand électroaimant d'Aimé Coton, qui est un peu la figure de proue scientifique de ce campus, mais qui est lui aussi le fruit de relations très intenses entre la recherche et l'industrie. Ça ne va pas toujours dans le même sens, et dans un sens unique, c'est une relation intense au niveau de la conception et du développement instrumental. Autour de lui, donc, s'implantent des structures menant des travaux très finalisés pour, par exemple, améliorer les goudrons, les caoutchoucs, ou encore les peintures, les vernis. Dans les archives du CNRS à Meudon, on va trouver une foule de contrats, à l'époque déjà, avec des entreprises qui nous diront peut-être quelque chose, d'ailleurs, si vous êtes bricoleur ou bricoleuse, c'est important aussi, comme la société Le Ripolin, dont une usine était établie à Issy-les-Moulineaux, ou encore la compagnie des peintures Valentine, installée, elle, à Gennevilliers. Et on pourrait mentionner d'autres labos originels du CNRS, à Vitry, Vitry-sur-Seine, par exemple, où un laboratoire dit des gros traitements chimiques s'était fait une spécialité de la purification des terres rares, en lien très étroit avec l'industrie, ou à Ivry, le labo de synthèse atomique de Frédéric Joliot. La photo de droite est très belle, elle a été prise par Douaneau. Un exemple type de structure engagée dans la recherche partenariale, à la fois au travers de ses axes scientifiques et aussi en raison du penchant qu'avait Joliot d'établir des relations solides avec les industriels. C'est de là d'ailleurs que proviennent les trois tout premiers brevets gérés par le CNRS. Ils ont été déposés par Joliot en mai 1939, puis pris en charge par le CNRS à sa création en octobre 1939. Les deux premiers portent, je cite, sur un dispositif de production d'énergie et ses procédés de stabilisation, et ils décrivent le processus de réaction en chaîne maîtrisée qui conduira à la mise au point des premières piles atomiques, réacteurs nucléaires. Le troisième, lui, il est intitulé « Perfectionnement aux charges explosives ». Je ne vous fais pas un dessin, le CNRS avait alors dans ses tiroirs les actes de naissance d'une ère nouvelle de l'humanité. Alors, il m'est difficile d'entrer dans les détails de la période suivante, celle de l'occupation. Mériterait une conférence à elle seule sur la manière dont le CNRS et ses personnels l'ont traversée. Pour ne rester que dans le domaine des relations avec ses partenaires socio-économiques, elles sont étroites au moment même où notre pays a été mis en coupe réglée par le Troisième Reich, a subi toutes sortes de pénuries, a mobilisé ses scientifiques pour tenter d'y faire face. Pour ne prendre qu'un exemple, un centre de recherche scientifique, industrielle et maritime à Marseille, ancêtre de l'actuel laboratoire de mécanique et d'acoustique, vous connaissez peut-être ou pas, est au cœur de nombreux contrats, de nombreux échanges, accueille et travaille régulièrement avec des ingénieurs des entreprises du CRU pour étudier des problèmes tels que la corrosion des métaux, ou comme le révèle ce journal, le Radical de Marseille, d'août 1943, sombre période évidemment quand même, pour atténuer les nuisances sonores des usines, pour chasser les rats des navires grâce aux ultrasons, ou encore pour trouver des produits de remplacement, des ersatz, comme on disait à l'époque en bon français, en l'occurrence ici au beurre laitier. Alors attention quand même, en dépit de ce progrès scientifique capital qui rend le beurre de karité consommable, des conseils quand même de tenter tout ce qui est mangeable n'est pas forcément bon. L'exploration des archives du CNRS dévoile que ces initiatives se multiplient dès la libération et ensuite au fil des années 50. Elles sont encouragées par la direction du CNRS. Frédéric Joliot s'est emparé de cette direction fin août 1944 lors de l'insurrection de Paris et le 18 septembre devant son directoire, alors que les combats font rage encore sur notre sol et que les Allemands ciblent la capitale avec une arme nouvelle, redoutable, le V2. Eh bien, Joliot insiste devant son directoire sur le rôle des scientifiques dans la reconstruction. Je le cite d'après le procès-verbal de ce directoire, compte rendu noir sur blanc. « Si une bombe tombait au CNRS et nous détruisait, ce serait plus grave que si elle tombait sur un gouvernement. On retrouverait immédiatement des membres pour ce gouvernement. » Je suis content là que le ministre a dû annuler quand même. « Mais on ne retrouverait pas immédiatement les hommes capables de créer et de travailler. » Et ces initiatives se matérialisent sous des formes diverses sur le terrain, souvent sous l'impulsion de, on appelait ça à l'époque, des patrons de la recherche, à l'image de Louis Néel. Louis Néel à Grenoble, Néel passe des contrats avec des entreprises comme Ugine, comme Air Liquide, il dépose des brevets et une société voit même le jour entre les murs de son laboratoire, la société anonyme des machines électrostatiques, la SAMES, qui se développe à partir des années 50 et le siège de la SAMES, finalement la première start-up du CNRS spécialisée dans les systèmes de pulvérisation industrielle et présente aujourd'hui à travers le monde, il se trouve toujours à Mélan, près de Grenoble. Un changement de rythme survient néanmoins au cours de la décennies suivantes, les années 60, déjà parce que le CNRS connaît lui-même un essor inédit dans un contexte dont il faut dire quelques mots. Avec le retour au pouvoir du général de Gaulle, la recherche, c'est une photo qui a été prise sur le campus CNRS de Meudon en 1965, la recherche devient une priorité nationale. Pour le CNRS, ça se traduit par une évolution sans précédent de ses effectifs. Il réunissait à peu près 1000 personnes en octobre 1939, il avait ensuite gentiment grossi à partir de la libération pour en atteindre 5000 en 1958. Il en réunit 17 000 en 1969, à soit plus d'un millier de postes nouveaux créés chaque année pendant une décennie. Dans le même temps, son budget connaît une évolution plus forte encore, puisqu'en valeur constante, il va d'abord doubler entre 58 et 60, puis enregistrer une croissance annuelle moyenne de 20% jusqu'en 1969. 20% de budget en plus tous les ans pendant 10 ans. Petit moment d'émotion, excusez-moi. Et dans ce, climat propice, parmi bien des réformes que je ne peux pas détailler, le CNRS va aussi mettre en place une autre réforme, une nouvelle formule qui les lie plus étroitement avec tous les autres acteurs de l'espace de l'enseignement supérieur et de la recherche, à commencer par les universités. C'est la création en 1966 de ce qui s'appelait à l'époque des laboratoires associés, qu'aujourd'hui on connaît sous le nom d'unités mixtes de recherche, les UMR. Et dans ce paysage en mutation, où les partenariats se multiplient presque mécaniquement, un besoin émerge de la communauté, celui de disposer d'une instance plus charpentée que le service des brevets qui existait au CNRS depuis 1939, mais s'apparentait plus à une chambre d'enregistrement de certaines des initiatives prises sur le terrain qu'à une véritable structure d'accompagnement. La réflexion autour d'une telle structure d'accompagnement se déploie au milieu des années 60 entre le CNRS et un comité consultatif de la recherche scientifique et technique établi au sommet du pouvoir gaullien, et elle aboutit à la proposition de mettre en place un INVAR au CNRS, un Institut National de Valorisation de la Recherche, qui est rebaptisé au moment de son inauguration en janvier 1967 Agence. On l'ignore souvent, mais l'INVAR, qui a ensuite évolué, comme vous savez, OSEO, BPI France, etc., a vu le jour au sein du CNRS. Hop. Comme l'un de ses premiers instituts nationaux. L'INVAR, dont bon, il n'est pas possible de développer toutes les actions qu'elle a menées, devient ainsi l'un des leviers de la recherche partenariale, vite complété par d'autres dispositifs à partir des années 70. À ce moment-là, à la direction du CNRS, il y a Hubert Curien, le physicien Hubert Curien, selon un penchant qu'il confirmera par la suite à la tête du CNES et puis ensuite à la tête du ministère de la Recherche, crée un comité des relations industrielles et des groupes sectoriels qu'il baptise des clubs de relations industrielles, les clubs CRIN, pour accompagner, comme il le note en 1972, l'évolution du CNRS vers une vraie entreprise de recherche. Ses successeurs lancent des programmes interdisciplinaires de recherche impliquant l'industrie, comme le PIRDES en 1975, un programme interdisciplinaire pour le développement de l'énergie solaire. Les sciences de l'ingénierie sont reconnues en 1975, la même année, comme un champ de recherche à part entière au sein du CNRS. Et puis une première convention générale de collaboration sur programme est signée entre le CNRS et Rhône-Poulenc, donc au niveau de l'établissement, en 1975 également. Bref, cette recherche partenariale se renforce, d'autant plus qu'elle apparaît comme l'une des réponses aux difficultés économiques que le pays commence à rencontrer avec le premier choc pétrolier. Le fait que toutes ces créations aussi soient au lendemain du choc pétrolier, c'est quand même un signe également, un contexte dans lequel, comme le note alors Hubert Curien, je le cite, il ne suffit plus que les scientifiques soient convaincus, il faut aussi qu'ils soient convaincants, et notamment au travers de ces opérations lancées au bénéfice de l'économie nationale. En dépit de l'alternance politique qui survient en 81, la période qui débute alors est sous cet aspect davantage un prolongement qu'une rupture. Alors bref rappel, encore une fois, du contexte. François Mitterrand inaugure un ministère de la recherche et de la technologie qui devient un peu plus tard un ministère de la recherche et de l'industrie. C'est quand même des rapprochements qui sont significatifs. Son premier titulaire est ministre d'État, c'est Jean-Pierre Chevènement. Vous l'avez ici, photo de la médaille d'or du CNRS remise en 1981 à Jean-Marie Laine, le chimiste, futur prix Nobel, à l'archéologue Roland Martin. On me fait souvent remarquer que sur cette photo, le plus fier des quatre est le serveur au second plan, vous avez raison. Chevènement organise de grandes assises de la recherche, assises qui débouchent en janvier 82 sur un colloque national, colloque qui vient nourrir la première loi d'orientation et de programmation de la recherche du 15 juillet 82, qui replace la recherche et le développement technologique au rang des grandes priorités nationales. Alors, il y aurait plein de choses à dire sur cette loi, ses dimensions internationales vers une Europe de la recherche qui commence à se structurer au même moment, ses dimensions territoriales vers les nouvelles régions qui sont créées, qui s'installent, le statut de la fonction publique accordée au personnel de la recherche ou la définition du statut d'EPST pour un certain nombre d'établissements, à commencer par le CNRS. Mais pour rester dans notre sujet, ce statut lui permet entre autres de créer des groupements d'intérêt public et des laboratoires communs avec l'industrie. Le premier a été fondé à Romainville par Pierre Potier. Pierre Potier avec Roussel Uclaf pour le développement de molécules thérapeutiques. Pierre Potier, chimiste, pharmacien. Alors qu'au même moment, à Gif-sur-Yvette, sur le campus de Gif-sur-Yvette, l'Institut de chimie des substances naturelles de Potier était lancé dans l'aventure du taxotère, en lien cette fois avec Ron Poulenc, avec le soutien de l'Anvar à l'époque. Taxotère, médicament antitumoral qui garantira, ne serait-ce qu'en termes de royalties, des retombées absolument colossales pour le CNRS à partir des années 90. Dans les années 90, on surnommait Pierre Potier au CNRS l'homme qui valait 2 milliards en référence à la série. Enfin, il valait 3 milliards dans la série américaine, mais c'était pas mal quand même, 2 milliards. On pourrait multiplier les exemples. Tous ne sont évidemment pas aussi frappants, mais il faut avancer. Dans les années 90, qui voit la création au CNRS sous la direction de François Kourinski, que vous avez là au centre, à côté du président de la République, et de Curien, devenu entre-temps ministre de la Recherche. Donc, création au CNRS de sa filiale France Innovation Scientifique et Transfert. Bon, toute une histoire, là aussi, on ne va pas pouvoir retracer. Et puis surtout, à l'échelle nationale, la loi sur l'innovation et la recherche, dite loi Allègre de 99, qui pose un nouveau jalon dans le parcours des établissements de recherche et d'enseignement supérieur. Un jalon qui, cette fois encore, marque autant une évolution, une certaine rupture, qu'un véritable prolongement. C'est intéressant de relire dans cette perspective l'exposé des motifs, les dispositions de cette loi. À aucun moment, on y affirme qu'il n'existe rien en matière de recherche partenariale, de valo, de transfert, que les établissements publics et les acteurs socio-économiques campent sur leurs olympes respectifs. Au contraire, il y a des liens, ils sont anciens, il y a l'ambition d'aller plus loin. Il y a aussi des barrières assez fortes à l'époque, en particulier juridiques, qu'il faut lever, c'était le sens de cette loi. Bref, au tournant des 20e et 21e siècles, on constate quand même déjà un long cheminement, en tout cas du point de vue du CNRS, de cette recherche partenariale. Et encore, une fois, j'ai évoqué que la période qui couvre l'histoire du CNRS, si vous m'aviez donné 2 heures de plus, nous aurions pu remonter, pourquoi pas, jusqu'à la naissance de l'Académie des sciences. Mais on se trouve aussi face à un constat d'inachèvement, de retard relatif, on l'a encore entendu tout à l'heure, d'insuffisance au pays de Colbert, quand même, mince alors, énoncé depuis des horizons très divers. Il y a certains rapports qui ont été énoncés tout à l'heure, je l'ai retrouvé immédiatement, dans la première partie des années 2000, des rapports soit très alarmants, je vous recommande par exemple dans ce registre le rapport de l'IGF sur la valorisation de la recherche en 2006, co-signé par un jeune inspecteur des finances qui s'appelait Emmanuel Macron, soit avec davantage, sorti de la lecture de ce rapport complètement déprimé, soit avec davantage de rondeur, de bonhomie. Et là, si vous voulez être moins déprimé, je vous recommande 3 ans plus tard la lecture du rapport de la commission Juppé-Rocard. La lecture est plus apaisante dans la mesure où elle met plus l'accent sur les forces, les potentialités de notre pays que sur les faiblesses et les barrières. Alors, sans vouloir passer, malgré tout, malgré ce que vous êtes sans doute déjà en train de penser pour l'imbécile heureux de la journée, c'est sous ce prisme-là que j'ai essayé de rappeler les liens du CNRS depuis quasiment un siècle avec ses partenaires socio-économiques, sans trop évoquer, sous la pression de l'horloge, les années les plus récentes que vous attendiez peut-être moins de la part d'un historien, qui seront sans doute de toute manière abordées lors des séquences suivantes de ce colloque. Alors bien sûr, étant moi-même du CNRS, vous l'aurez sans doute constaté, quand même relativement attaché à cet établissement, vous pourriez me soupçonner d'avoir cherché à enjoliver un petit peu le tableau. Bon, déjà, ça serait un petit peu injuste parce que le salaire que me verse le CNRS n'est pas assez élevé pour m'inciter à falsifier la vérité historique. Il faudrait me payer beaucoup plus pour ça. Et surtout, car mon propos n'était pas d'affirmer que tout a toujours été pour le mieux dans le meilleur des mondes. On ne serait pas là en train de réfléchir. Sinon, on serait déjà passé au cocktail en train de se féliciter les unes, les uns et les autres. Mais de rappeler que le passé a vu quand même de nombreuses initiatives, que ces initiatives sont souvent très riches d'enseignements, autant par leur succès que par leurs échecs, évidemment. Et que le premier de ces enseignements, c'est qu'il n'y a pas d'incapacité essentielle, séculaire, congénitale à encourager à développer la recherche partenariale en France, que c'est donc plus du côté, sans doute, des instruments de son accompagnement, quand même sans cesse remis sur le métier, à un rythme qui s'est accéléré ces dernières années, souvent promu, aussi vite que contesté, voire dépouillé parfois de leurs moyens, et aussi multiplié et compliqué à mesure qu'on annonçait qu'on allait les concentrer et les simplifier. Bref, peut-être vers ces instruments-là qu'il faut sans doute orienter la réflexion. C'est bien sûr plus facile à dire qu'à faire, et je suis bien content d'être aujourd'hui dans le costume de l'historien qui essaye de dire ce qui a été plutôt que ce qui doit ou devra être. C'est une mission dont je me décharge volontiers sur celles et ceux qui me suivront à cette tribune. Je leur souhaite d'ailleurs bon courage pour cette réflexion. En attendant de les entendre, moi je vous remercie toutes et tous pour votre attention. Merci beaucoup.